Merci Romain. Alors comme vous allez pouvoir le constater, évidemment j'ai triché aussi et j'ai changé la question. Je suis parti d'une remarque qui m'a frappé, c'est que du côté américain en réalité, on parle très peu de capitalisme. On ne parle pas de capitalisme généralement, surtout politiquement, on parle de marché libre. Alors non seulement on parle de marché libre, mais ça a un contenu sémantique qui est très différent, beaucoup plus large que celui de marché libre en France. Marché libre en France, ça fait un peu technique économique, hein, c'est une structure technique concurrentielle, ouverte, avec une information parfaite, plus ou moins, etc., comme le rappelait Jean. Free market, en anglais, c'est beaucoup plus vaste. Et je voudrais citer un expert, George Bush, père, qui est très réévalué ces temps-ci, il a eu beaucoup de chance, qui disait dans sa première adresse inaugurale, je cite, « Nous savons ce qui marche, la liberté marche, nous savons ce qui est juste, what's right », c'est ça qu'il disait, « La liberté est juste, nous savons comment garantir une vie plus juste, more just, c'est pas tout à fait right, et prospère pour l'homme sur terre à travers des marchés libres, free markets, la liberté de parole, free speech, des élections libres et l'exercice du libre arbitre, free will, sans entrave. » Bon, alors on peut se demander si c'est un simple jeu de mots, une espèce de rhétorique de la liberté qui sert à justifier d'autres choses. Je ne crois pas. Je crois que ça renvoie à quelque chose d'important et de structurant dans le discours politique américain. Alors le mot de culture me rend toujours très nerveux méthodologiquement, donc j'ai plutôt tendance à parler de politique, c'est toujours plus facile. Mais il y a quelque chose là derrière, de l'ordre du marché libre, beaucoup plus que du capitalisme, et je vais essayer dans les 25 minutes qui viennent d'explorer un petit peu cette distinction entre marché et capitalisme, qui en fait ne sont pas forcément tout à fait la même chose. Techniquement, depuis Tocqueville, il y a une espèce de topos qui est l'identification des États-Unis et avant les États-Unis des colonies américaines, des 13 colonies, à une liberté individualiste et matérialiste. On le rappelait avec l'exemple de cet auteur allemand inconnu qui a eu moins de chance que Tocqueville, puisque seul Jean Effer a réussi à le récupérer, mais qui devait dire sensiblement la même chose, l'acquisitiveness des Yankees, le fait qu'ils sont tout le temps en train d'essayer d'accumuler des choses matérielles. Si on se penche sur le consensus historiographique actuel aux États-Unis, il semblerait qu'il justifie a posteriori cette longue tradition d'analyse, puisque, en gros, le consensus est que les plantations, comme on les appelle, anglaises en Amérique du Nord, particulièrement sur la côte atlantique, ont connu un développement rapide dès le XVIIe siècle et une généralisation sans équivalent en Europe de ce que l'on pourrait appeler une économie marchande pré-capitaliste. Donc il y a quelque chose là qui est, semble-t-il, acquis par l'historiographie. Ceci dit, c'est relativement récent comme acquisition dans l'historiographie, parce que si on s'intéresse à des historiens plus anciens, on s'aperçoit qu'au contraire, au fond, l'idée de Yankees obsédé par l'acquisition de biens matériels n'était pas forcément centrale dans des écoles historiques plus anciennes. En fait, c'était souvent considéré comme un cliché finalement peu révélateur. Si on remonte à une des vieilles écoles les plus connues, celle de Turner, qui est souvent citée, mais généralement pas lue, sur la frontière américaine, hein, la thèse de la frontière, en fait, quand on la lit, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une importation aux États-Unis du positivisme allemand, des lois de l'histoire, articulée autour de l'idée que la réindianisation des populations européennes, c'est-à-dire en termes économiques, le retour à une économie prémonétaire de subsistance tout à fait archaïque, hein, primitive, était au fondement de l'identité américaine. C'était ça la thèse de Turner. La thèse de Turner, c'était l'affirmation que c'était justement le mode de vie indien qui faisait la particularité des États-Unis. Plus près de nous, jusque dans les années 50, les historiens du consensus privilégient au fond un mouvement démocratique dans lequel la révolution est un moment absolument essentiel. Et d'une façon plus générale, très souvent en économie, on voit un passage important d'une espèce d'avant archaïque à un après efficace et moderne, qu'on a plutôt tendance à situer au 19e siècle qu'au 18e. Et les colonies américaines sont souvent décrites jusque dans les années 50-60 comme une économie semi de subsistance, avec des gens qui essayent de faire des choses un petit peu plus développées, mais où finalement il ne se passe pas grand-chose. C'est plus près de la Gemeinschaft que de la Gesellschaft, si je ne me mélange pas mon allemand. Et en fait, dans la synthèse organisationnelle qui a eu cours au début des années 70, elle est explicite, puisque c'est ces ancêtres de Chandler et de la de l'histoire managériale moderne, des gens comme Samuel P. Hayes et des gens comme ça, voyaient au fond dans l'invention de l'organisation la marque d'ouverture de l'époque moderne. Donc avant ça, eh ben, il y avait des petits producteurs qui finalement n'étaient pas si efficaces que ça. Alors, en réalité, l'identification par les historiens et plus récemment par le grand public, de la période coloniale, c'est-à-dire du XVIIIe siècle et du premier XIXe siècle, comme temps de naissance d'un capitalisme assimilé au marché libre, a découlé paradoxalement, en fait, quand on regarde de près, du travail dans les années 1970 d'historiens d'extrême gauche qui cherchaient dans le passé colonial des États-Unis les structures d'un passé anti-capitaliste, bizarrement. Alors, pour les partisans de ce qu'on a appelé l'économie morale, il s'agissait de prouver, c'est la household economy, on appelle aussi l'économie du foyer. Et il s'agissait de prouver qu'au fond, la vraie Amérique, l'Amérique coloniale, pré-capitaliste, était une Amérique communautaire. Des articles comme ceux de Michael Merrill, Cash is good to eat, que Jean Effer n'aime pas du tout parce que c'est vraiment pas très solide méthodologiquement, mais l'idée était très attirante. Ou plus sérieusement, celui de James Henrietta sur Families and Farms, Mentalité, avec l'accent, in pre-industrial America. Tous ces gens affirmaient l'existence de modes de relations économiques qui étaient des modes de relations tout à fait dominés par des relations interpersonnelles, communautaires, qui étaient beaucoup plus importantes que la rationalité économique, la recherche du profit, etc. Et donc, il y avait une espèce d'Amérique imaginée et idéalisée, à vrai dire, chez beaucoup de ces historiens, de la petite communauté rurale, de l'échange, de la solidarité, de la coopération et de la non-monétarisation, dans une large mesure, des relations interpersonnelles qui avaient ensuite été, supposait-on, brisées, détruites, par la montée des échanges marchands puis du capitalisme industriel, mais plutôt au XIXe siècle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réaction assez vive des historiens économistes qui ont démontré par A plus B qu'en réalité, il y a quelqu'un qui s'appelle Winifred Rothenberg, qui est très important là-dessus, « From marketplaces to market economy », qui a démontré qu'au fond, quand on regarde de près, les prix agricoles locaux dans le Massachusetts, puisque c'est ça qu'elle étudiait, avaient convergé avec ceux des grands centres de manière statistiquement nette à partir des années 1750, ce qui impliquait qu'à cette date, l'évolution vers un marché unifié était achevée, puisqu'il fallait bien que les produits soient transportés et échangés sur l'ensemble de la zone pour que les prix convergent, sinon il y aurait eu des prix différents à différents endroits, et que, ce que ça supposait aussi, ça supposait que tous les mécanismes d'un tel marché étaient en place, qui, compte tenu du temps nécessaire pour construire les institutions, les réseaux, etc., supposait enfin que la masse des cultivateurs de la région s'était plus ou moins lancée dans des stratégies capitalistes, donc d'économie de marché, concurrentielle, dès le début du XVIIIe siècle, voire avant. Donc ça remontait quand même pratiquement au milieu du XVIIe siècle. D'autres chercheurs soulignèrent d'autres éléments, comme la présence de discours politiques sur l'économie qui était tout à fait favorable à l'échange marchand. Et donc, on ne voyait pas pourquoi les politiciens leur étaient favorables, alors que la masse de la population aurait cherché à y échapper. Et puis, ça rentrait dans un mouvement plus vaste dans les années 60 et 70. Dans les années 70 et 80 plutôt, excusez-moi pour cette erreur de datation, qui mettait en valeur, au fond, les racines de la révolution industrielle. On a déplacé l'accent de plus en plus, même dans l'histoire des différentes grandes puissances économiques occidentales, Angleterre, France, etc., de tout ce qui était invention, développement technique, développement organisationnel, grandes entreprises du 19e siècle, jusqu'à un ensemble de, alors on ne sait pas trop, préconditions, paramètres préalables, racines, sources, etc., du 18e siècle. Ça allait de des connaissances scientifiques à toute une série d'attitudes politiques et institutionnelles légales permettant de pousser le désir d'acquisition matérielle et de développement. On retrouvait pas mal de Max Weber aussi dans toute cette affaire. Et la queue de cette évolution a été assez récemment la réapparition d'un discours sur le monde atlantique dont vous avez peut-être entendu parler. C'est la dernière chose à la mode chez les historiens, en particulier américains. Il y a eu toute une série de numéros spéciaux dans pas mal de revues d'histoire économique américaine, à commencer par la Business History Review, William & Mary Quarterly en a fait un également en 2005. et l'idée d'un espèce de monde atlantique dans lequel les échanges internationaux, l'univers du négoce le plus purement marchand, se voit accorder un rôle décisif dans toute une série d'évolutions et unifie en fait toute cette zone. Alors on peut remarquer que ça existe en France aussi, puisque vous retrouvez la même thèse par exemple dans le livre récent de Guillaume Daudin, Commerce et prospérité, à propos du XVIIIe siècle français, avec un rôle très important accordé au commerce international comme mode de régulation. Ce n'est pas une nouveauté totale, d'ailleurs, je le dis brièvement. On oublie toujours que les gens comme T.S. Ashton et David Landes, qui sont généralement associés à l'idée que la révolution industrielle, c'est un tas de machines et d'inventions, quand on lit effectivement leurs livres, pas du tout, eux aussi posaient tout un ensemble de contextes et de sources diverses pour la révolution industrielle. Alors, quel rapport avec la culture américaine ? C'est qu'avec tout ça, le consensus actuel est le suivant. Il semble qu'aujourd'hui, il y a consensus sur le fait qu'entre 1600 et 1850, le marché progresse dans les cœurs et sur le terrain et finit par entièrement conquérir les deux, cœur et terrain, entre 1750 et 1780, qui est la date haute défendue par les partisans du marché classique comme Rothenberg et son élève Newell. Si vous regardez un livre comme Engines of Enterprise, qui est un livre récent sur l'histoire de Massachusetts, il y a un article de Newell qui résume bien ça. Et 1820-40, qui est la date basse défendue par les derniers défenseurs de l'économie du foyer et de l'économie morale, des gens comme Christopher Clark, aussi dans le Massachusetts. Mais la discussion porte sur la chronologie et le rythme de ce qu'on a fini par appeler la révolution du marché, et pas tellement sur l'existence ou la nature de la révolution du marché, qui domine donc dès le XVIIIe siècle et encore plus au XIXe, avec l'idée de cette profondeur chronologique qui justifierait l'idée d'une culture américaine comme capitaliste. Alors après vous avoir dit tout ça, je vais tout casser en expliquant qu'en fait, il ne s'agissait pas du marché. Et que c'est pas qu'ils se trompent tous, mais il y a un glissement, c'est un peu le bon taux en ce moment chez les historiens économistes, il y a un glissement habile entre deux choses. Il y a le marché et les pratiques marchandes telles qu'elles existent au XVIIIe siècle. Et ça, c'est vrai, on a plein d'observations sur l'idée qu'effectivement, au XVIIIe siècle aux États-Unis, il y a beaucoup de pratiques marchandes et d'échanges marchands. Et puis, il y a l'idée que ces pratiques marchandes et ces échanges marchands constituent un marché classique smithien, ce qui est pas, ou néoclassique, ce qui n'est pas du tout pareil. Un marché concurrentiel, transparent, qui est censé émerger aux États-Unis par petites étapes et achever son évolution vers 1820. Au point que chez les historiens américains, il y a une espèce de sentiment du caractère tangible de ce marché smithien. Il y a un exemple historique de marché concurrentiel vrai. Alors, si vous ne me croyez pas, je peux citer des gens. À commencer par Alfred Chandler Jr., qui est quand même la personne qui a réactivé l'histoire des entreprises aux États-Unis dans les années 70, et qui dit, je cite, « L'économie américaine des années 1840 fournit une illustration convaincante du fonctionnement sans entrave de l'économie de marché telle que l'avait si bien dépeinte Adam Smith. » Bon, et il pointe l'existence de toute une série d'une économie dominée par des petites unités de production familiale, sans grosses unités de production, et sans non plus de structure féodale à l'européenne, sauf quelques Hollandais égarés dans la vallée de New York. Bon, mais ça compte pas. Si vous pensez que Chandler est dépassé, 1977, la main visible, c'est quand même ancien, vous pouvez vous tourner vers la toute récente, somme toute, Cambridge Economic History of the United States, où des luminaires comme Stuart Blumen décrivent, je cite, « une nation progressant de marchés locaux limités à des marchés extra-locaux intégrés, d'une culture de la libre entreprise tempérée par la coutume, à une logique d'accumulation sans fin. » Alors là, il y a des échos de Jean Effer, et si vous regardez la façon dont ça marche, c'est absolument de la théorie économique ultra classique de spécialisation et d'approfondissement de la division du travail. Un dénommé David Meyer a commis récemment, en 2003, un livre qui s'appelle « The Roots of American Industrialization » et qui est une application parfaite, mais vraiment très parfaite, des modes d'analyse de l'économie orthodoxe contemporaine, alors post-marginaliste, c'est plus Smith, c'est plus compliqué, mais il y a des applications très directes dans un modèle américain qui semble reproduire exactement ce que la théorie prévoyait comme effet positif du développement d'un marché libre, concurrentiel, avec une bonne information. Et les institutions qui vont avec rajoutent bien évidemment les néo-institutionnalistes. Vous savez qu'il y a toute une école néo-institutionnaliste qui dit que tout ça, il faut du marché, du contrat, pardon, de la police, un État, etc. Oui, certes, donc on rajoute ça autour et ça marche très bien. Donc si on se résume, la place historique du capitalisme dans la culture américaine est en réalité non pas la place du capitalisme, mais celle du marché concurrentiel. Ce free market, beaucoup plus idiomatique en américain qu'en français. L'affirmation actuelle de cette place repose sur une réalité incontestable, connue dès la fin du XVIIIe siècle, réaffirmée par de nombreux témoins tout au long du XIXe siècle. Les échanges marchands sont plus nombreux, plus intenses, plus systématiques dans les 13 colonies qu'ailleurs. La même affirmation inclut en revanche un deuxième élément tout à fait différent. Les 10 échanges marchands sont ce que nous appelons aujourd'hui le marché concurrentiel prévu par l'économie orthodoxe, en particulier dans la tradition marginaliste. Enfin, cette affirmation suppose plus ou moins implicitement que ce que d'autres témoins ont également observé, là encore pensons à Tocqueville ou à notre camarade allemand dont je ne me souviens plus du nom, est également ce même marché concurrentiel théorique de l'économie actuelle. Alors, sans vouloir polémiquer avec les religions concurrentes de la mienne, il me semble clair que l'idée de rapport marchand, à la fois invariant et conforme à la théorie sur 4 siècles en gros, est une idée d'économiste plutôt que d'historien. Il y a une vraie question de méthode. L'échange marchand en 1680, en 1770, en 1850, en 2000, est-il le même échange marchand ? Peut-on estimer qu'un même mécanisme théorique est à l'œuvre à ces 4 dates ? Et j'ai parfois l'impression qu'on retrouve dans la sphère de l'histoire économique une espèce de pendant marginaliste étrange d'un concept bien oublié aujourd'hui, mais qui avait fait fortune autrefois, qui était celui de la montée de la bourgeoisie, et qu'on a fini par laisser tomber parce que la bourgeoisie montant de manière continue depuis l'Antiquité, ça finissait par être une telle course de fond que c'était ingérable historiquement. La croissance du marché commence à ressembler de plus en plus à ça. Si vous lisez le Journal of Economic History, il y a des gens qui trouvent la croissance du marché déjà significativement au Moyen-Âge ou au XVIe siècle. On commence à se diriger vers une longue durée que même Braudel trouverait très longue. Alors, je crois qu'au fond, il va falloir choisir entre deux solutions théoriques. Soit on pense que oui, le marché du 18e est bien le marché d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, ça a des conséquences. Ça a entre autres la conséquence qu'il y a une pratique, une espèce de, je ne veux pas faire du Hegel à bon compte, mais ça y ressemble beaucoup quand même, c'est le en soi du marché, hein, inconscient, une pratique simplement, qui existait déjà au 18e siècle, même si on n'avait pas compris comment ça marchait, qui devient peu à peu le pour soi, en soi et pour soi, puisque aujourd'hui on a les deux, on a le fonctionnement pratique du marché et la théorie économique classique qui nous permet de la comprendre. Et on ne voit pas très bien quelles sont les marges de progression, à moins d'avoir un Aufheben, un dépassement assez vite, mais ça n'en prend pas le chemin. Donc il y a une espèce de fin de l'histoire à la Fukuyama, en fait, là-dedans, avec tout ce qui s'est passé depuis 1600, aboutissant au triomphe qui est l'histoire monétariste de Milton Friedman, qui est donc la fin de l'évolution de l'humanité depuis les origines à nos jours. Bon, moi, évidemment, vous aurez peut-être compris que ça ne me satisfait pas complètement comme solution, et je préférerais une lecture inverse, et finalement qui correspond à des choses qu'on a déjà vues dans le passé, qui serait qu'il s'agit d'une réécriture contemporaine d'aujourd'hui, d'une histoire qui était en réalité peut-être un petit peu différente. Dans ce cas de figure, l'émergence d'un discours idéologiquement très fortement dominant, articulé autour de l'efficacité et de la primauté du marché concurrentiel, a conduit à une reformulation du passé en fonction de tout ce qu'on pouvait y trouver. À l'appui d'affirmations dans le contexte, la source et les visées, on peut avoir avec le XVIIIe siècle et tout avoir avec aujourd'hui surtout. Alors, en ce qui me concerne, il se trouve que je suis spécialisé justement en microéconomie, en pratique microéconomique des marchands du XVIIIe siècle. L'idée qu'on pouvait identifier ces pratiques microéconomiques aux pratiques actuelles m'a toujours frappé comme extrêmement improbable. J'ai été confronté de plus en plus à l'observation de choses qui me paraissaient irréductibles aux pratiques actuelles. Alors, je vous donnerai simplement un exemple rapide. J'allais vous affliger de l'histoire de la comptabilité. Je me suis dit que quand même, je ne pouvais pas faire ça. Et donc, je ne ferai que résumer cette partie rapidement. Vous inquiétez pas, ça sera mis en ligne. Et comme ça, pour les gens que ça passionne vraiment, moi, je trouve ça passionnant. Vous pourrez aller... Il y aura tout un temps de références. Je vous rappelle que l'histoire de la comptabilité est un champ en plein développement. Il y a énormément de journaux d'histoire de la comptabilité anglo-saxons qui font des choses très intéressantes. Et je leur fais de la publicité. Chaque fois que je peux, je vous conseille vivement Accounting and Financial History. On y trouve de tout, y compris de la comptabilité foucaldienne ou marxiste. C'est bien le dernier endroit où on trouve des théoriciens marxistes cohérents en comptabilité. Donc, quelques points sur le profit après cette incise publicité gratuite. Le profit marchand du XVIIIe siècle pose quelques petits problèmes. D'abord, dans les comptes marchands, il y a ce qu'on appelle une incertitude de la nomenclature. C'est-à-dire que les produits, on ne sait pas trop ce qu'ils sont. En réalité, les produits se diffusent par une échelle de qualité implicite. Vous savez, il y a des tissus plus ou moins bons, des chaussures plus ou moins bonnes. Mais c'est jamais marqué. Quand vous voyez chaussures, tant de paires, vous ne savez pas à quel niveau ces chaussures se placent dans les échelles de qualité. C'est jamais marqué, c'est toujours non dit. Ce qui fait que le signal prix renvoie d'abord à quelque chose qui est effectivement une échelle de qualité, qui renvoie peut-être derrière un coût de production, mais qui est irrécupérable de notre point de vue. Alors, côté règlement, les montants débités ou crédités peuvent l'être de 36 façons différentes. Je vous cite entre autres un paiement en numéraire, un crédit sur les livres d'un autre négociant, des billets à ordre dont le terme et l'intérêt sont souvent non notés. Donc, c'est un peu difficile de reconstituer ce qui se passe. Beaucoup de transactions sont dissymétriques. C'est-à-dire que les marchands marquent, par exemple, l'achat et la vente d'une marchandise donnée ne génèrent pas nécessairement la même information. Une marchandise peut rentrer en débit comme partie intégrante d'un lot. Hein, elle a été achetée avec d'autres. Et puis sortir en crédit individualisé dans la transaction de crédit. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle sort de nulle part. En fait, on peut tracer les flux d'argent, mais on ne peut pas tracer les flux de marchandises. Ils ne sont pas forcément fiables. Les comptables font remarquer que tout un tas de centres d'analyse contemporains, comme la dépréciation, n'existent pas, mais ça encore, ce n'est pas très gênant. Le plus important et le plus frappant de mon point de vue, c'est qu'au fond, le profit comptable ne comprend pas un ensemble de coûts et d'actifs qui sont totalement non comptables, alors que tout le monde s'accorde à leur faire jouer un rôle essentiel jusque dans la fixation des prix à l'époque. On peut citer le statut institutionnel, comme le privilège, par exemple. Est-ce que vous fonctionnez dans le cadre d'un privilège ou non ? Toutes les problématiques autour de la confiance, du crédit et des réseaux. Ça a pris une importance énorme et pourtant, on ne peut pas le traduire en termes comptables. Or, des opérations peuvent très bien être faites, non pas parce qu'elles rapportent un profit comptable, mais parce qu'elles permettent de rapporter un profit de ce point de vue de la confiance et des réseaux. En d'autres termes, je peux me livrer à une opération à perte avec un petit camarade marchand à Londres quand je suis à Boston, non pas parce que ce marchand de Londres va me donner un avantage sur cette opération-là, mais parce qu'il m'apporte d'autres choses dans le cadre de mes réseaux transatlantiques. C'est parfaitement possible et évidemment incalculable au sens le plus littéral du terme. Alors, faut-il conclure que le marchand ne s'intéresse pas au profit à l'époque ? Évidemment, non. Bien sûr que non. Simplement, le marchand de l'époque raisonne en gamme de produits dans des gammes de prix. Et surtout, la comptabilité marchande n'est pas destinée généralement à établir un bilan financier et encore moins, bien sûr, une analyse des coûts. Ça arrive de temps à autre, mais ça n'est pas le but principal. Le but principal est de déterminer les positions de crédit de tous les acteurs avec lesquels le marchand est en relation au jour le jour. La position de crédit correspond à un compte évoluant dans le temps, comme à la banque. La nature des opérations faisant évoluer ce compte importe peu, et c'est certainement ce qui différencie le plus la comptabilité marchande de nos conceptions actuelles. Ce qui compte, c'est le flux global et sa direction. Le solde d'un compte donné doit en revanche pouvoir être fourni à tout moment, évidemment. Le solde comptable du compte, enfin, n'est qu'un des éléments d'appréciation du profit, dont une grande part, encore une fois, s'évalue de manière non comptable dans les systèmes de réseau, de confiance, etc. Alors, à mes yeux, cet exemple du profit, il y en a d'autres. On peut aussi souligner l'absence de salariat au sens contemporain d'aujourd'hui. Il n'y a pas de salariat. L'entreprise est d'abord une entreprise d'unité familiale avec une hiérarchisation interne à cette unité familiale. Ou alors de partenariat, mais il n'y a pas d'entreprise anonyme, de société anonyme ou très peu au sens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'environnement de l'entreprise est très différent. Les sociétés anonymes, entre guillemets, de l'époque sont souvent des sociétés qui sont en fait à but semi-public, qui serait considéré aujourd'hui comme parapublic, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis en fait. Pour toutes ces raisons, cet exemple du profit illustre à quel point historiquement l'économie marchande de 1700-1800 est loin de l'économie capitaliste industrielle que nous connaissons, y compris dans ses aspects les plus purement économiques. Ce qui, à mon avis, prouve que nous et les économistes devrions probablement faire plus attention quand on applique directement des catégories utilisées aujourd'hui dans l'économie orthodoxe, à un passé même proche, parce qu'on est assez vite conduit à l'anachronisme, à mon avis. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Bon, la productivité aussi, tiens, j'ai oublié, c'est un autre exemple, n'apparaît que rarement dans les préoccupations des acteurs. Elle n'est pas directement prise en compte dans la formation des prix, beaucoup plus déterminée par des échelles de qualité, plus ou moins artificielles, etc., etc. Dans ces conditions, l'assimilation courante aujourd'hui de l'économie marchande de 1800 à l'économie de marché des économistes est au mieux un raccourci contestable. La première a peut-être engendré la seconde, mais à travers un processus historique qui est loin d'être uniquement continu. Alors, je vais devoir aller très vite parce que je prévoyais 10 minutes pour la troisième partie, il m'en reste 6, donc on va accélérer. Comment on en est arrivé là ? Il y a une réalité historique qui est une réalité historique qui n'est pas réductible à une économie de marché simple. Il y a aujourd'hui l'idée que cette réalité historique l'est réductible à l'économie de marché. Ce que je pense, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'étapes. Si on se place en 1800, en réalité, bizarrement, les États-Unis et la culture américaine, si on veut l'appeler comme ça, la sphère politique américaine, est en réalité dominée politiquement par un discours anti-commercial, anti-économie de marché, si on veut, qui est le discours de Jeffersonien. Jean Effer a cité le passage célèbre du Query 19 de Jefferson, mais qui serait bien de citer, faut vraiment le citer en entier parce qu'il est tout à fait fascinant. Ceux qui travaillent la terre forment le peuple élu de Dieu, si Dieu a jamais eu un peuple élu. C'est dans leur sein qu'il a pris soin de placer plus particulièrement la vertu réelle et authentique. Là est le foyer dans lequel il entretient cette flamme sacrée qui autrement pourrait disparaître de la surface du globe. La corruption de la moralité de la masse des cultivateurs est un phénomène qui ne s'est jamais rencontré dans aucun âge historique ni aucune nation. Cette corruption est la marque de ceux qui ne se tournent pas vers le ciel et vers leur propre terre, vers leur propre travail, à la façon des agriculteurs pour assurer leur subsistance, mais font dépendre celle-ci des hasards et des caprices de leur clientèle. La dépendance fait naître la soumission et la vénalité, étouffe les germes de la vertu et prépare des outils aptes à servir les desseins de l'ambition, c'est-à-dire des ambitieux. Ceci, le résultat naturel du progrès des arts, a parfois été retardé par des circonstances accidentelles, mais en général, la proportion de l'ensemble des autres classes de citoyens dans un état quelconque par rapport aux agriculteurs et la proportion des membres malades, unsound, par rapport aux membres sains et un bon baromètre du degré de corruption de cet état. En d'autres termes, je résume, pour Jefferson, tout engagement dans un échange marchand est un risque de corruption. Il vous le dit comme ça. À partir du moment où on a des clients, et là il pense aux artisans qui ont des clients puissants, puisque ces clients vont être les ambitieux en question, hein. Il ne s'agit pas de clients de supermarché, il s'agit des marchands, il s'agit des élites. Ceux qui ont de l'argent pour acheter. Ça, c'est le risque. Et même si, comme l'a fait remarquer Appleby et d'autres historiens, c'est resté quand même plus théorique que pratique parce qu'ils ne se sont pas débarrassés des marchands, au contraire, on part d'une base révolutionnaire qui est plutôt une base de discours politique anti-marchand et commercial, en réalité, vers 1790-1800. Vous lisez les toasts. Vous savez, à la fin de chaque fête aux États-Unis, on faisait des toasts patriotiques. Généralement, c'est agriculture, commerce parfois. Et quand vous avez commerce, c'est que vous êtes généralement dans une zone fédéraliste anti-Jeffersonienne. Donc il y a vraiment un poids fort. Alors ensuite, au 19e siècle, vous avez ce que certains de mes collègues soupçonnent être une espèce de contre-révolution, dans laquelle Tony Fryer a fait un article là-dedans dans la Cambridge Economic History, dans laquelle, au contraire, les élites marchandes reprennent le pouvoir et parviennent à faire basculer le rapport de force nettement en leur faveur en 1820-1830. Ça, c'est ce que Tocqueville a vu. Et ça a été télescopé avec quelque chose de complètement différent, qui est la révolution industrielle, qui est une autre étape dans laquelle on sort du monde marchand, on rompt jusqu'à un certain point, à mon avis, avec le monde marchand, ça c'est encore en discussion, mais en tout cas, on passe à autre chose, c'est clair. Et vous avez une troisième étape, qui est, à la fin du 19e siècle, l'affirmation capitaliste des gens comme Carnegie, qui est largement anti-jeffersonienne, qui s'appuie sur cet ancien régime marchand, en particulier du point de vue de la concurrence libre et totale et du primat de l'économie, et qui y rajoute une forte dimension antidémocratique et inégalitaire avec le règne des meilleurs. Plus ou moins, si on regarde de près d'ailleurs, quand on regarde Carnegie lui-même, en réalité, il était méritocratique et il préconisait, entre autres choses, la taxation à quasiment 100% des héritages pour éviter les dynasties. Donc c'est compliqué un petit peu. Et on aboutit, alors après, il y a toute une généalogie que d'autres gens connaissent mieux que moi et que je suis incapable de vous vraiment décrire, et de toute façon, je n'ai pas le temps, donc c'est l'excuse que je prends pour ne pas le faire. Mais il y a toute une généalogie politique qui va de cette affirmation de la fin du 19e siècle, en passant par les années 20 et certaines branches du Parti républicain, jusqu'à Ronald Reagan et la révolution des années 1980. Et Reagan a comme particularité, à mon avis, même si ce n'est pas ma spécialité, là je m'aventure sur des zones un peu lointaines, de combiner cette tradition-là, qui est une tradition fondamentalement anti-jeffersonienne, avec la tradition jeffersonienne. C'est-à-dire qu'il arrive à marier les deux, il y a une espèce de syncrétisme entre le démocratique égalitaire et le marché libre, la libre concurrence inégalitaire, qui a assurer le triomphe politique de ce discours-là. Mais qui est un discours pas forcément moderne, parce qu'il a des très vieux, des éléments très anciens et pré-industriels, au fond, qui renvoient à une économie de marchands et non pas à une économie industrielle. Pour conclure, bon, la notion de culture, comme l'a rappelé Jean Lefebvre, n'a rien de simple à manier. Le cliché n'est jamais très loin, c'est souvent trompeur. Après tout, si on mesure le capitalisme à l'aune de la concurrence individualiste tournée vers le profit, comme c'est souvent le cas, quoi de plus capitaliste que la queue à la française comparée aux queues américaines à la poste, ou que le conducteur français, ou sur un mode moins futile, le système scolaire français, ou les rapports d'entreprise français? Est-ce que ce n'est pas infiniment plus orienté vers une concurrence permanente, une compétition très violente, très brutale, de capitalisme sauvage, que l'équivalent américain, qui est au contraire beaucoup plus ordonné? Donc, c'est quel est le pays le plus capitaliste? Lequel des deux le pays est la plus capitaliste dans sa culture? Si on se base sur la queue, il n'y a pas de doute, c'est la France. De ce point de vue, parler de culture capitaliste à propos des États-Unis, à mon avis, c'est commettre une double confusion, on va dire. Confusion entre capitalisme et marché, d'abord. Du fait de leur histoire particulière, les États-Unis connaissent des discours politiques profondément marqués par un passé d'économie marché concurrentielle, marchande concurrentielle, en train de devenir lointain. Et on pourrait même arguer que, de ce point de vue, le discours politique dominant est au moins aussi archaïque que moderniste. C'est très ambigu. Peut-être même plus archaïque que moderniste, mais bon, là, on rentre dans le débat politique plus qu'historique. Culture marchande, oui. Culture capitaliste, pas forcément. La meilleure preuve en est la difficulté avec laquelle les États-Unis mettent en place des structures pourtant essentielles au bon fonctionnement du capitalisme contemporain, comme un système de santé suffisamment efficace pour assurer le bon état physique de la main-d'œuvre, ou un système de formation compétitif centré sur l'acquisition et l'approfondissement rapide de méthodes efficientes, qui, aux États-Unis, ne marchent visiblement pas, puisqu'ils sont constamment forcés d'importer leurs cadres intellectuels de l'étranger, massivement, et à prix d'or. Le fait que ce qui constitue quand même des vérités premières soit plus ou moins passé sous silence depuis une vingtaine d'années renvoie, à mon avis, plus à un contexte politique particulier qu'à un mouvement de fond en ce domaine. Alors, cette conjoncture nous conduit à une deuxième confusion, moins historique et plus contemporaine, entre une certaine vision politique des États-Unis et l'économie politique réelle des États-Unis. La vision politique du pays comme terre de la libre concurrence, de la libre entreprise, du marché libre, s'est construite progressivement à partir de la fin du XIXe siècle plutôt que le début, et n'est pas la seule vision possible, comme l'a fort bien dit Jean Lefebvre. Comme toute description politique, elle est en partie correcte. Les États-Unis sont aussi une terre de libre concurrence, etc. Mais les visions concurrentes, alors moi je les ai appelées autrement parce que je n'avais pas lu Bela, j'avoue, mais j'avais trouvé des choses comme... Il y a une vision néo-madisonienne qu'on traduit plus ou moins par communautarisme en français. À mon avis, c'est une mauvaise traduction. C'est plutôt à Madison qu'il faudrait renvoyer. Il y a des néo-jeffersoniens de gauche qui soutiennent la solidarité communautaire contre... le capitalisme, entre guillemets. Il y a toutes les visions protestantes, calvinistes ou piétistes qui sont très compliquées, mais avec des versions aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Il y a les visions racistes, post-esclavagistes. Tout ça est tout aussi important. La vision politique actuellement dominante, que l'on peut largement qualifier de réganienne, parce que c'est vraiment Reagan, sous Reagan, c'est pas Reagan lui-même, le pauvre, mais c'est autour de Reagan que la synthèse s'est faite, ne doit pas être confondue avec une description scientifique de la culture américaine, à supposer qu'une telle entreprise soit possible. Je suis historien, donc évidemment, ça me pose problème. Elle en traduit en partie la réalité actuelle, mais en partie seulement, vu le succès commercial de Delbert, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée, il est difficile de soutenir que la masse de la population américaine partage la fascination de ses élites pour les entrepreneurs capitalistes. Enfin et surtout, ce serait commettre une faute historique que de projeter rétrospectivement cette vision déjà partielle sur des périodes passées caractérisées par des comportements, à mon avis, différents. Voilà. Merci.